Triptyque sur le critique. Première partie. Le critique intérieur, une énergie transgénérationnelle en lien avec nos blessures. Bonjour, je m'appelle Véronique Brard et j'enseigne le Voice Dialogue. Le Voice Dialogue est un dialogue entre deux personnes. Entre un praticien formé au Voice Dialogue, que l'on nomme le facilitateur, et une autre personne que nous nommons le facilité. Le facilitateur va interviewer une ou plusieurs des voix présentes chez le facilité. Lors de ces interviews, une des voix qui est très, très souvent présente est celle du critique intérieur. Bien sûr, il n'arrive pas en disant « Salut, je suis le critique intérieur ». Mais si en tant que praticien, nous connaissons sa vibration très particulière, nous pouvons la reconnaître et inviter la personne à explorer cette énergie pour mieux s'en séparer. Pourquoi revenir inlassablement sur cette grande figure de notre théâtre intérieur? Parce que c'est une énergie transgénérationnelle destructive dont il est temps de s'affranchir. Il vit en chacun de nous, il a un avis sur tous les domaines de notre vie, et cet avis est toujours dépréciateur et dévalorisant. Voir l'influence qu'il a sur nous, sortir de cette zone d'influence fait toute la différence entre se débattre pour survivre et vivre. L'entendre, reconnaître son énergie, sa musique, ses attaques, comprendre son origine et ses motivations, c'est se rendre compte avec grand plaisir qu'il n'est pas nous. Mieux encore, nous pouvons penser d'une façon différente de la sienne. L'énergie du critique est l'une de celles qui nous empêche de vivre heureux, joyeux, en paix, de savourer qui nous sommes. C'est une voix qui nous attaque et nous paralyse. Vous trouverez sur mon site Voice Dialogue France pas moins de 7 articles traitant directement de lui, sans compter ceux où je parle indirectement de lui ou du tyran intérieur. Je vous les cite. Avril 2004, le critique intérieur. Septembre 2005, comment faire maigrir un critique d'une tonne. Avril 2009, le critique intérieur, il dit vouloir nous aider, il nous détruit. Juin 2009, le critique global, holistique, expert en développement personnel. Février 2012, le critique intérieur, haine de soi, haine de l'autre. Septembre 2019, la source empoisonnée. Avril 2020, aller vers une vie créative, le critique désamorcé. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est un triptyque pour mieux le reconnaître, se désidentifier de lui et apprendre à le gérer. Dans cette première partie, je vais vous le présenter. C'est une copersonnalité qui sort certainement de l'ordinaire. Je vais aussi attirer votre attention sur sa musique. Elle est tellement présente que parfois nous ne l'entendons même plus. J'aimerais aussi attirer votre attention sur le fait que c'est une énergie qui nous insulte, qui nous agresse, alors même qu'elle ne fait que répéter ce qu'elle a entendu dire des centaines et des centaines de fois dans notre enfance et adolescence. Il est difficile de vivre heureux lorsqu'on a une telle voix toute puissante à l'intérieur de nous. Bien sûr, à l'origine, c'est un protecteur, mais il a perdu cette capacité de protection. Il est devenu plutôt une sorte de tyran qui nous malmène. Nous verrons que l'approbateur est certainement une meilleure ressource pour nous, même si bien souvent, il nous faut construire cette énergie. Dans la seconde partie, nous parlerons plus particulièrement des critiques attaques, dont je vous donnerai plusieurs exemples, des peurs aussi de notre critique et de la façon de sortir de sa zone d'influence. Enfin, dans le troisième volet, nous décrirons une manière décisive de diminuer les angoisses et les attaques de notre critique intérieure. Commençons donc par dire que c'est une copersonnalité, une énergie étonnante. Il semble agir avec une extrême lucidité dans de nombreux domaines. Il peut voir, entendre, ressentir, analyser, synthétiser tout ce qui ne va pas chez nous. Il a l'intelligence d'un génie, une intuition incroyable, une capacité infinie à décortiquer nos sentiments, nos motivations. Il a un regard circulaire qui note le moindre détail. Détail qu'il va grossir avec beaucoup d'habileté. Comme il souligne et grossit tout ce qu'il nomme nos erreurs et nos défauts. Je ne parle pas de sa mémoire, elle est phénoménale. Il peut nous reprocher des incidents qui remontent à des années. Nous les avons complètement oubliés, lui, non. Il semble être bien plus intelligent, bien plus perspicace que nous. Et surtout, il est absolument convaincu qu'il a raison et qu'il peut nous guider et nous aider. C'est là où, lorsque nous le connaissons mieux, nous pouvons avoir un avis un peu différent. Deuxièmement, il a un avis sur tout. Si vous faites une petite recherche, une petite investigation, par exemple, vous vous demandez « Que pense le critique de votre métier, de votre vie privée, de vos amours, de votre façon d'être parent, de vos relations, de votre corps, de ce que vous avez fait ou n'avez pas fait hier ?» Si vous faites cela, vous allez pouvoir facilement vous rendre compte que votre critique a un avis sur tout et que cet avis, comme je le disais plus haut, est le plus souvent dépréciateur et dévalorisant. Sur le point 3, je voudrais vous dire vraiment que le critique croit ce qu'il croit, mais nous pouvons prendre conscience qu'il nous insulte. Ces croyances sont même assez terrifiantes lorsqu'on y réfléchit. La plus brillante, c'est « t'es nul ». Tu te rends compte de ce que tu as fait ou dit ? Ce « t'es vraiment nul » qui est son commentaire favori génère bien sûr une certaine angoisse. On peut le comprendre, non ? Mais nous avons aussi « l'ennui avec toi, c'est que » ou « écoute, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas chez toi ». Certaines remarques sont sans appel. « T'es vraiment égoïste » ou « t'es tellement con que tout le monde te marche sur les pieds ». Là, c'est intéressant. Nous commençons à voir qu'il n'est pas si facile de lui plaire. Si je suis égoïste, c'est mal. Si je suis gentille, ce n'est pas beaucoup mieux. Nous critiquer pour une chose et son contraire, il adore. Si nous commençons à noter ce qu'il nous dit, nous allons remarquer que c'est même une de ses spécialités. Continuons à lister ses croyances, car lorsque nous commençons à comprendre que ce sont ses croyances, nous tenons le bon bout. Elles ont leur raison d'être, mais elles ne disent pas la vérité sur nous, et surtout, ce sont des insultes. Tu es minable, tu es horrible, tu es gros, tu es mou, tu es trop petit, personne ne prend les gens petits au sérieux. Tu vieillis. T'es trop jeune, t'es pas crédible, tes vêtements sont moches, t'as l'air ridicule, tu n'as aucun talent, personne ne peut t'aimer, les gens s'emmerdent avec toi, tu n'aurais jamais dû dire ou faire cela. Et ils nous donnent le sentiment que c'est une totale catastrophe, notre vie est pratiquement fichue. Si tu ne travailles pas deux fois plus que les autres, tu n'arriveras à rien. Tu devrais te refaire le nez. Tu es laid, tu es laide, tu auras beau y faire, tu n'y changeras rien. À nouveau, on peut noter la contradiction. Les contradictions ne dérangent pas un critique. Tu as réussi à leur faire croire que tu étais intelligent, mais attends qu'ils découvrent la vérité ou qu'ils te connaissent mieux. Et très, très, très courant, au fond, tu n'es qu'un simulateur, ou mieux, un imposteur. Sans oublier, quel gâchis t'as fait de ta vie. Elle n'a aucun intérêt. Tu n'es qu'un perdant. Bref, le critique est convaincu que nous ne sommes pas quelqu'un de bien et nous le martèle sur tous les tons. En écoutant ces phrases qui nous sont probablement et malheureusement familières, on peut prendre conscience encore et encore que ce sont des insultes. Nous nous laissons insulter par notre critique intérieure. Un quatrième point, c'est qu'il adore transformer les mots en armes et il les retourne contre nous. Le critique intérieur sait utiliser le pouvoir des mots. Et l'un de ses favoris est « erreur ». Il adore ce mot. C'était une erreur, tu n'aurais jamais dû aller à ce déjeuner. C'est une erreur, tu n'aurais jamais dû envoyer cette lettre. Mais c'était une erreur de manger ce sandwich. Tu n'aurais jamais dû accepter cette invitation. Tu n'aurais pas. Derrière tous ces « tu aurais dû, tu n'aurais pas dû » se trouve le postulat de base que nous nous sommes trompés, que nous avons commis une erreur. Or, dans l'esprit du critique, l'erreur est dramatique, dangereuse et par là inacceptable. Lorsque nous en avons commis une, le ciel nous tombe sur la tête. Grâce à lui, grâce à ses peurs, à ses injonctions sans appel, nous nous retrouvons en fait dans la peau d'un enfant impuissant, critiqué par ses parents, ses professeurs ou toute autre forme d'autorité. Dans le langage du critique existe aussi le mot « symptôme » et autres termes de la même famille. Les kilos superflus sont des symptômes. Avoir trop mangé est un symptôme. Un mal de tête également. Boire trop de café est une dépendance. Une connexion forte à une autre personne, une addiction. Le besoin des autres, besoin légitime et universel, devient de la codépendance. Ce n'est pas que tous ces diagnostics soient sans intérêt, ils peuvent même être utiles. Le problème est que le critique se saisit de tous ces mots et les utilise comme des armes contre nous. Vous pouvez penser aussi à lui comme la voix de celui qui, depuis toujours, veut vous améliorer. Depuis les débuts de notre vie, nous améliorer est l'un de ses grands buts. Là aussi, il n'y a rien de mal à vouloir s'améliorer. Vouloir s'améliorer est juste normal. Sauf lorsque ce but est devenu celui de notre critique intérieure. C'est alors sans fin. Nous n'étions pas comme nos parents ou nos professeurs le désiraient, certes, mais avec le critique, cela se continue pour l'éternité. Nous ne sommes pas et nous ne serons jamais comme il faut à ses yeux. Un cinquième point, il est là à toute heure. Si nous acceptons d'entendre sa voix à l'intérieur de nous, nous pouvons entendre ses commentaires à n'importe quel moment de la journée ou de la nuit. Il aime bien nous réveiller en sursaut à 3 heures du matin, quand toutes nos défenses sont abaissées, pour nous faire part de remarques qu'il juge absolument pertinentes et qu'il veut nous communiquer de toute urgence. En général, se rendormir tranquillement devient problématique. Le point 6, c'est que jamais nous ne permettrions à une personne extérieure de nous parler sur ce ton. Si une personne extérieure nous parlait sur ce ton et qu'une autre l'entendait, elle serait tellement horrifiée qu'elle ne pourrait s'empêcher d'intervenir. C'est en fait un sketch qui a été mis en scène avec grand talent par deux actrices. L'une disant à haute voix à l'autre tout ce que le critique intérieur de cette dernière lui disait continuellement. Et ça se passait dans un café. Les gens autour d'elle n'ont pu s'empêcher d'intervenir pour lui dire que vraiment, elle ne pouvait pas parler ainsi. Ils étaient tous profondément choqués. Pourtant, c'était des commentaires très basiques que tout bon critique répète à chacun ou à chacune. N'oublions pas les comparaisons. Le meilleur allié du critique est un grand comparateur qui adore nous comparer. En général, tous les autres sont mieux que nous sur un point ou un autre. Parfois, il existe même un mental plus émotionnel que rationnel, on doit le dire, qui, sous couvert de logique et de clairvoyance, s'allie aux critiques. Alors là, nous sommes morts. Point 7. Le critique n'est pas nous. Il n'est que l'une de nos copersonnalités. Le critique n'est que lui, le critique. Et nous ne sommes pas notre critique. Il n'est que l'une de nos copersonnalités. Et nous en avons beaucoup d'autres. Il a ses croyances, venues de l'enfance, et qui en disent long sur la violence verbale que nous subissons dans cette enfance, et qui se continue lors de notre adolescence. En fait, se brancher sur le canal du critique intérieur constitue une super expérience. Nous pouvons commencer alors à percevoir la puissance de l'énergie qui nous parle et à voir que ces jugements ne sont pas forcément objectifs, loin de là. Réfléchissez. Depuis combien d'années vous dit-il que vous êtes nul? La première fois, c'était quand? Vous aviez 5 ans? 6 ans? Moins? À peine plus? Pensez-vous qu'un enfant de 5 ou 6 ans, parce qu'il a du mal à apprendre à lire ou écrire, ou à se tenir tranquille, ou à faire ce qu'on lui demande, pensez-vous que cet enfant soit nul? Point 8. Origine et but du critique intérieur. Le critique, au départ, vient nous aider. Il veut nous protéger. Il a un but, un grand but, que nous soyons aimés. Or, pour être aimé, un enfant doit plaire à ses parents. Le critique s'applique de toutes ses forces à ce que nous soyons conformes à ce que nos parents ou éducateurs attendent de nous. En regardant les origines de notre critique intérieure, nous pouvons garder à l'esprit qu'il désirait nous protéger. Sa fonction première était de faire en sorte que nos parents nous aiment. Plus tard, il a voulu nous épargner les critiques de notre entourage. Ces critiques qui venaient très souvent avec un « tu n'as pas honte ». Je me souviens de ma grand-mère. « Tu n'as pas honte de sauter comme ça partout ? Tu n'as pas honte de crier comme ça ? Tu n'as pas honte de parler à ta sœur comme ça ?» C'était sans fin. Nos parents, nos grands-parents, nos oncles, nos tantes nous observaient. Ils faisaient de leur mieux pour voir ce qui n'allait pas chez nous et essayer de nous corriger. Nos professeurs, en général, ont fait la même chose. Le fait d'être repris et de reprendre les autres constitue une part essentielle des interactions humaines. Et on peut le déplorer. Triste enfance. On nous fait remarquer que nous ne sommes pas assez soigneux, que nous ne faisons pas correctement ce qui nous est demandé, que nous n'apprenons pas assez vite, que nous ne nous concentrons pas suffisamment, que nous ne réfléchissons pas assez, que nous sommes maladroits, négligents, pas assez disciplinés, pas assez attentifs, intelligents, serviables, que nous, horreur, sommes de parfaits égoïstes. Et tout cela, sans parler des éventuels « t'es nul, t'es con » de nos frères et sœurs plus âgés, 10-20 fois par jour. Bien sûr, certains aspects de notre comportement mettaient nos parents mal à l'aise. Ils n'aimaient pas que nous les dérangions, les interrompions. Nos cris, nos jeux, le bruit, notre désordre, notre vitalité pouvaient les déranger. Ils n'aimaient pas nos colères, notre curiosité, notre sexualité. Ils étaient le plus souvent fatigués, ils avaient une vie difficile et nous trouvaient, d'une façon générale, beaucoup trop vivants et remuants. Il y a eu des tonnes de choses que nos parents ont voulu changer chez nous, simplement parce qu'ils étaient ce qu'ils étaient. Peu importe en fait leur motivation, le malheureux message de base qui a été transmis est « il y a quelque chose qui cloche chez toi. Si seulement tu pouvais t'améliorer, tout irait mieux pour toi. » Nous vivons dans une société critique. Nos parents, nos grands-parents ont tout fait pour nous adapter à cette société comme eux-mêmes l'ont été. Notre critique, qui est née très peu de temps après nous, s'y est employée également. Point 9. Pour nous protéger, il s'est fait l'écho des messages entendus dans notre enfance. Notre critique intérieure a repris en boucle ses soi-disant informations sur nous-mêmes pour nous améliorer, pour que nous soyons aimés. Pour nous protéger de la souffrance et de la honte, il a pris le relais, essayant de parler avant que ceux qui nous entourent ne le fassent. Et nous avons commencé à nous sentir nuls et stupides, et cela ne s'est pas arrangé avec le temps. Ainsi s'est développé le critique, se faisant l'écho de toutes les injonctions de tous les adultes qui, d'une façon ou d'une autre, comptaient dans notre vie. Nous avons à l'intérieur de nous une copersonnalité convaincue que nous ne sommes pas quelqu'un de bien, dédiée depuis nos 18 mois, pratiquement, à faire de nous quelqu'un de bien. Et nous croyons cette partie de nous. De plus, avoir entendu durant des années cette multitude d'injonctions, parfois ou souvent contradictoires, a rendu ce critique intérieur, ce critique que nous croyons, extrêmement agité, anxieux, angoissé, disons même un peu fou. 10. C'est une énergie transgénérationnelle désespérée. De génération en génération, le critique de chacun est pratiquement désespéré à l'idée que nous n'allons pas réussir notre vie, que nous ne pourrons jamais, tels que nous sommes, être acceptés ou appréciés par les autres. Il s'agite, il a peur, il a besoin de nous. Nous disparaissons devant lui, nous nous identifions à lui. Or, il a besoin de nous, il a besoin que nous le rassurions, que nous nous occupions de ses peurs, que nous lui donnions la preuve que plus personne aujourd'hui ne va nous battre ou nous humilier, sauf lui. Le laisser s'occuper de nous et nous définir est la plus mauvaise des idées. C'est une voie archaïque, adaptée à notre environnement d'enfance, non à notre présent. Prendre du recul par rapport à ce qu'il dit, remettre en question ses certitudes, tracer ses incohérences est notre travail. Même s'il nous semble avoir raison, qu'il ait raison ou non n'est pas la question. C'est une voix émotionnelle, angoissée, qui nous blesse et nous agresse. Il veut nous aider, il ne nous aide pas. Et il terrifie nos enfants intérieurs. Point 11. Personne ne peut jamais satisfaire son critique. Personne ne peut jamais satisfaire son critique. Ceux qui s'y emploient perdent. La voix du critique, comme nous l'avons dit, au fil du temps, est devenue Radio Quasi. C'est le nom que Al et Sidra Stone, les créateurs du Voice Dialogue, lui donnent. Al et Sidra Stone ont écrit de nombreux livres sur nos différentes copersonnalités, c'est-à-dire nos différents moi ou je. Un livre entier est tout spécialement dédié aux critiques. Ce livre, Le critique intérieur, est disponible sur Amazon ou sur mon site. Malheureusement, il n'est pas disponible en librairie. J'aimerais bien, mais nous n'avons pas encore un lectorat assez important pour que les livres de Al et Sidra Stone soient vendus en librairie. Point 12. Le critique projeté sur les autres. Nous pouvons aussi projeter sa musique sur les autres. En fait, nous le faisons assez souvent, voire continuellement, ce qui ne nous donne aucune sécurité. Le monde entier devient critique. Voici un rêve qui illustre de façon remarquable cette projection. Loïc est dans sa cuisine et une musique insupportable gêne. Il pense que cette musique vient de l'extérieur. Il se lève, il va à la fenêtre, il voit des ados en train de réparer leur moto. Il leur crie d'arrêter cette musique abominable, insupportable. Les ados lèvent la tête et rétorquent « Mais monsieur, cette musique, elle vient de chez vous. » Loïc s'aperçoit alors que son poste de radio est allumé et que, effectivement, cette musique vient de chez lui. Je trouve ce rêve fascinant, tellement clair. Le point 13, nous allons revenir sur le fait qu'il est vraiment difficile de vivre heureux avec cette voix. Comment vivre heureux ou simplement détendu avec elle, avec cette voix à l'intérieur de nous, cette radio ouverte en permanence qui commente de façon négative chacun de nos actes et doute de nous en permanence. Lorsque nous prenons un peu de temps pour nous, il nous dit que nous sommes paresseux et égoïstes, que nous n'arriverons jamais à rien. Lorsque nous travaillons dur pour atteindre nos buts, il nous dit que ce n'est pas une vie, nous négligeons notre couple, nos enfants, notre famille, nos amis, que nous n'avons pas de vie sociale, que nous ne savons rien faire d'autre que travailler et que nous finirons tout seuls. La plupart du temps, nous sommes tellement habitués à l'entendre, commenter et juger la moindre de nos pensées, paroles, actions, que nous ne réalisons plus à quel point cela a un effet complètement corrosif sur nous. Pourtant, ce constant harcèlement, ces perpétuels jugements, lorsque nous les acceptons consciemment ou inconsciemment, mènent à la dépression, à la perte du sens de notre valeur, voire de notre vie. Boire, s'accrocher à des substances diverses et variées sont des tentatives pour ne plus l'entendre. Ces substances sont là pour l'endormir. Lorsqu'il se réveille, bien sûr, c'est pire. On ne peut jamais gagner avec notre critique et il n'existe pas de vie heureuse avec lui. Cependant, nous pouvons nous apercevoir qu'il ne dit pas la réalité, qu'il n'a aucun discernement, qu'il est angoissé, partial, qu'il reprend inlassablement les critiques entendues dans notre enfance, et que les peurs et l'ignorance de nos parents et éducateurs, parfois leur méchanceté, sont la seule raison d'être de ces critiques. Ces critiques ne disent rien de nous, elles ne disent rien de notre réalité. Nous pouvons nous rendre compte que ce disque est rayé, qu'il ne nous aide pas, il nous prive même de nos couleurs et nous fait une vie en noir et blanc. Point 14. Changer d'énergie, contacter l'approbateur. Ce qui nous aidera, c'est de changer d'énergie, de contacter volontairement des voix beaucoup plus objectives, beaucoup plus conscientes de la réalité du présent. Des voix qui ont confiance en nous, qui nous soutiennent, qui nous apprécient. Une voix qui pourrait dire par exemple « Tu es unique, tu es incomparable. Chaque être humain est parfait dans sa différence. Et même, tu es déjà parfait comme tu es. » En réalité, nous étions un enfant parfait, avec toutes les caractéristiques propres à l'enfant, bien sûr. Et nous sommes devenus des adultes qui font au mieux avec le conditionnement et les blessures que nous avons reçues. Avec toutes nos caractéristiques, spécificités, particularités, nous sommes parfaitement imparfaits. Mais la vie elle-même est toujours imparfaite dans son mouvement. La perfection est statique, immobile. La perfection, c'est la non-vie. Elle ne peut pas évoluer. Nous sommes parfaits comme nous sommes parfaits dans notre imperfection et ainsi nous continuons d'évoluer, du fait même que nous sommes vivants et devenons conscients. Nous avons besoin de discernement à propos de nous-mêmes et des autres, oui. Une voix comme celle d'un rationnel objectif peut nous aider à avoir ce discernement. Ce qui la différencie du critique, c'est qu'elle ne sera ni agressive ni méprisante. Et puis celle d'un approbateur sera encore plus efficace. Point 15. Développer la connaissance de qui nous sommes. Dans ma vision, et celle de beaucoup d'autres personnes, nous sommes des âmes qui avons pris un corps humain pour venir faire une expérience terrestre. Nous pouvons nous regarder avec le regard bienveillant et plein de gratitude qui est celui de l'âme. Notre âme collective ou individuelle nous aime infiniment et nous soutient. Elle sait que vivre dans un corps humain n'est en rien facile. Elle est pleine d'admiration et de gratitude pour notre partie humaine qui lui permet de faire l'expérience qu'elle désirait, être dans un corps humain et agir sur Terre. 16. L'approbation est le plus grand des moteurs. L'approbation est le plus grand des moteurs. Comment aurions-nous appris à marcher si une multitude de critiques et d'injonctions contradictoires étaient venues pour rectifier la position de notre corps ou nous presser d'aller plus vite, Vous imaginez? Tiens-toi plus droit, tu as les fesses trop en arrière. Redresse-toi, rapproche tes jambes. Ça n'aurait pas vraiment fonctionné. Pour les plus heureux d'entre nous, nous avons appris à marcher sous le regard émerveillé de nos parents et même des fois sous leurs applaudissements. Prendre conscience de l'origine de notre critique permet de voir le disque rayé qui est le sien et qui se transmet de génération en génération. Entrer dans un champ d'énergie différent comme celui de l'approbateur permet d'avoir un point de vue différent sur nous-mêmes et sur la vie en général. Cela nous permet de vivre en paix avec nous-mêmes et les autres, et la joie peut de nouveau être au rendez-vous. Cette transformation ne se fait pas à travers des efforts, plutôt par une intention claire liée à une ouverture de conscience qui nous permet d'embrasser différemment notre réalité, et tout particulièrement qui nous sommes. Ainsi se termine cette première partie. Nous verrons dans la seconde ce que sont les critiques-attaques et comment sortir de la zone d'influence du critique. Merci, au revoir. C'était Véronique Brard.